appuyer sur la gâchette, jusqu'où on peut aller sous le bénéfice du folklore.
On peut habituellement reconnaître les fans de heavy metal à ce qu'ils portent.
Couleur noire est essentielle.
J'ai rencontré des gens qui écoutaient du métal. Et cette violence tout de suite, ces coups qui tapent dans les oreilles tout de suite, ça m'a plu. Et je suis rentré dedans tout de suite en fait. C'est comme il y a des onctions du Saint-Esprit, moi j'ai reçu une onction métal d'un seul coup.
Noise pollution.
Je ne vois pas comment une société responsable peut fermer les yeux devant ce genre de choses en prétendant que c'est un divertissement inoffensif.
Noise pollution.
Je voudrais savoir si les paroles qui accompagnent cette musique sont aussi sataniques que les images.
Il y a le power metal, la nouvelle vague de heavy metal britannique, le metal progressif, le glam metal, le pop metal, le stoner metal, le hardcore, le thrash metal, le grunge. Je crois toujours que cette musique n'est qu'un divertissement inoffensif.
Noise pollution.
Voilà donc 20h passées 3 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, il est l'heure de Noise Pollution, donc une émission où on va écouter pas mal de métal. Notons que la semaine dernière nous n'étions pas là puisque moi j'étais en vacances.
En vacances au...
Oui, j'ai fait un pèlerinage chez Christine Boutin.
Wellfest, oui.
Voilà, Wellfest.
As-tu réussi à préserver ton intégrité auditive ?
Non, ça non. C'est mort.
Et ton intégrité physique ?
Non plus.
Ah, oui. Donc on aura les détails tout à l'heure.
Je vous raconterai, c'était...
Oui, paraît-il qu'il a rencontré des bikers allemands fort accueillants.
Voilà, c'était ça, c'est le biker allemand.
L'alcool aidant, voilà.
Mais j'ai quand même ramené un petit souvenir catholique.
Ah ouais, c'est parfait.
Donc,
parfait. Un tatouage.
Jésus.
Il s'est fait tatouer.
Jésus.
En fait, c'est comme Very Bad Trip 3.
C'est ça. On va commencer par une nouveauté avec le nouvel album de Rhapsody. Alors moi, je dis toujours Rhapsody, hein, mais parce qu'il paraît qu'il y a quelques années, ça a changé. Ça s'appelle Rhapsody of Fire.
Oui, c'est vrai.
J'ai jamais compris pourquoi. Il y a sûrement une bonne justification, mais je l'ai raté. Et en fait, je m'en fous.
Dis donc, c'était un peu dévergondé ce passage en terre religieuse. Là. Qu'est-ce qui se passe ? Retrouve la foi, s'il te plaît. Les Italiens de Rhapsody of Fire.
Voilà, of Fire. L'album s'appelle From Chaos to Eternity. Alors, on peut lire un peu partout que c'est presque du black metal.
Ah bon ?
Et que c'est devenu ultra agressif.
Agressive, c'est un lapsus assez révélateur quant au caractère très sexué de la musique de Rhapsody.
Ouais, alors c'est pas du tout le cas. Il y a déjà sur l'album précédent, sur un ou deux morceaux, le chanteur poussait sa voix à avoir presque une voix de black metal. Il y a effectivement deux morceaux sur lesquels on a du chant un petit peu agressif, mais ça reste du Rhapsody ultra mélodique, un peu moins de clavier qu'avant, un peu plus de guitare, mais c'est toujours un petit peu leur Hollywood metal qu'ils font très très bien. Cet album, c'est vraiment la renaissance. Ça avait déjà commencé celui d'avant, suite aux aléas qu'ils ont connus il y a quelques années, puisqu'ils sont passés chez les labels de Manowar, et vraisemblablement Manowar, ça tue la musique. Et en tout cas, ça a bien cassé Rhapsody.
C'est-à-dire, parce qu'il leur imposait une direction artistique différente de ce qu'ils avaient envie de faire.
Ouais, et puis bon, la gestion était compliquée, et il leur permettait pas de sortir des disques comme ils voulaient.
Il fallait qu'ils jouent
en peau de bête
sur scène. Donc, contractuellement, ils n'avaient pas vu, c'est écrit en petit dans les contrats, porter des peaux de bête minimum 4 heures par jour, compliqué.
Voilà, je vous propose donc le morceau qui s'appelle Tornado, qui est un des deux morceaux les plus agressifs de l'album, et vous allez voir, ça a quand même pas tant changé que ça, même si c'est un peu plus péchu.
We'll be right back.
Voilà donc Rhapsody of Fire, extrait du nouvel album From Chaos to Eternity. Et le morceau c'était Tornado. Et Jean-Pierre, tu voulais faire des remarques ?
Oui, non, je trouve que la musique de Rhapsody est tout en finesse. Par contre, alors j'ai une information malheureusement qui va pas forcément les servir, c'est que paraît-il, hein, pendant les soirées Bunga Bunga de Silvio Berlusconi, Rhapsody était diffusé en fond sonore.
Mais c'est peut-être qu'une légende.
C'est peut-être qu'une légende.
Ce qu'on peut noter, c'est que les paroles, faut aimer les mondes enchantés, les dragons, les trucs comme ça.
Voilà. Et Luca Torelli aurait été aperçu aussi dans ces soirées Bunga Bunga et pas forcément dans un rôle masculin.
Ah.
Et oui, et oui. On poursuit avec un groupe qui malheureusement lui a sombré corps et âme.
Ah non, tu peux pas dire ça. Ils viennent de sortir un album cette semaine.
Oui, tout à fait. Non, mais artistiquement, je veux dire.
Oui, alors là je crois qu'on, oui, on peut le dire.
Ce sont les mythiques brésiliens de Sepultura qui avaient vraiment été très très haut en termes de renommée et de qualité artistique également, hein, à la fin des années 90, début des années 2000, avec trois très très bons albums qui étaient Arise, Chaos AD et le Roots. Là, on va s'écouter donc un extrait d'un live sorti en 2002. Donc, ça nous fait notre rubrique il y a
9 ans.
9 ans, donc presque 10 ans. Puisqu'on a décidé qu'on pouvait avoir
freestyle.
Une année de plus ou de moins. C'était compliqué de trouver toujours 10 ans. Donc, double album live sorti, je pense, pour conclure le contrat avec leur label mythique Roadrunner Records. C'était un album qui était enregistré à Londres, à la Brixton Academy, en décembre 96.
Donc Ireski, dans le groupe, dans les frères Cavalera, il n'y en a aucun
des deux, je crois. Hein. Il me semble que tous les deux sont partis. Membre original, il doit rester Andreas Kisser, le guitariste, oui. Quoi, je crois. Enfin bon, on va pas parler de ce Sepultura-là, on va revenir au Sepultura au sommet de sa forme. 96 à Londres avec deux morceaux mixés en un, comme le fait d'ailleurs parfois Metallica sur scène. C'est deux extraits de l'album Arise, le morceau Arise et le morceau Dead Embryonic Cells.
I see the world old. I see the world all right. I'm
Les Brésiliens de Sepultura sur Radio Canu, à la grande époque d'ailleurs de Roots, ils avaient quand même réussi à écouler pas loin de 50 000 albums en France, ce qui était une très très belle performance. Maintenant, s'ils en écoulent 500, ils peuvent s'estimer satisfaits.
Voilà, au Hellfest, il y avait
les frères Cavalera.
Cavalera Conspiracy. Et je crois que c'est vraiment une escroquerie, leur truc. C'est la deuxième fois qu'on les voit et ça attire, et les gens en ont marre, quoi. Il n'y a pas de magie, il n'y a plus.
Non,
il n'y a plus tout ça.
Il ne fait pas bon vieillir dans le métal. Enfin,
ça dépend. Il y en a qui vieillissent pas mal. Bah, on va parler de gens qui sont vieux et qui font du métal.
Oui.
Ouais, c'est alors on va amener un peu de mélodie, de douceur dans le monde de brut de Noise Pollution avec le groupe qui s'appelle Black Country Communion. C'est le deuxième album. Alors c'est quand même un peu ce qu'on appelle un super groupe.
Oui, c'est ça. C'est des
parce que Glenn Hughes au chant.
Oui, voilà.
C'est un chanteur qui tue, mais qui est vieux.
Tue des personnes.
Non, qui a
avec
une
sa voix.
Sa voix.
Parfois quand il chante.
Jason Bonham, qui est connu pour être le fils
du batteur de Led Zeppelin,
l'autre bonhomme
qui est mort,
voilà.
S'il avait trop bu de l'alcool.
Et c'est lui qui a fait sombrer Led Zeppelin d'ailleurs.
Enfin,
c'est sa mort, quoi, je veux dire.
Oui.
Derek Sherinian au clavier,
un ancien de Dream Theater.
Voilà, qui était bien poseur dans Dream, qui était un peu décalé.
Ça jouait du clavier de dos.
Ouais. Et Joe Bonamassa à la guitare, qui est un guitariste de blues.
Oui, qui a sorti plusieurs albums assez intéressants.
Et c'est bien, très très bien. Et alors ce mélange, alors c'est leur deuxième album en moins d'un an. Ça s'appelle tout simplement Deux. Donc ça lorgne vers le rock hard des années 70, hein, Deep Purple ou les choses comme ça. C'est vraiment très bien fait. Alors cet album est un peu plus mid-tempo que celui d'avant, mais je vous ai proposé
J'aime tous ces petits styles pour comment on appelle ça, terme précis technique. Compliqué.
Des années d'expérience.
Oui, c'est vrai.
On écoute le morceau le plus speed de l'album, qui est celui qui ouvre le disque, qui s'appelle The Outsider. Et c'est aussi bien que le premier album. Moi, je trouve vraiment ça fait plaisir d'entendre les vieux continuer de faire la musique qu'ils aiment avec autant d'envie, d'espoir et de talent.
Ceci dit, Laurent soigne sa gérontophilie. Hein.
Ouais, ça y est. Pas.
Too late.
Voilà donc le deuxième album de Black Country Communion, donc super groupe, et pour une fois on réunit des super musiciens et on sort un super disque, c'est pas souvent le cas. Ça s'appelle 2, hein, puisque c'est l'album numéro 2, donc en moins d'un an. Donc voilà, on espère qu'ils vont tourner et qu'on les verra. Parce que
c'est plus compliqué quand même avec des gens comme ça de
des papis.
Cette importance là. non mais c'est que faire coïncider tous les agendas, etc. Ouais. Ça.
Donc voilà, c'était un peu une musique qui lorgnait vers les 70s et là je crois que tu vas tendre vers les 80s.
La fin des années 80, et ceci dit, je vais élever encore le registre vocal un peu plus haut si c'est
en aigu, tu veux dire.
Si c'est possible. Oui. Je vais vous diffuser un morceau d'un groupe culte de heavy metal mélodique qui a sévi dans les années 80 et au début des années 90. C'est les Crimson Glory, alors registre heavy metal un peu musclé, avec un chanteur qui avait une tessiture vocale assez exceptionnelle et qui chante très 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 haut. Très très haut, hein, on peut le dire comme
oui.
ça. Oui, voilà, c'est un peu belle imitation. Et en plus, il est mort. Ça nous permet de lui rendre hommage, puisqu'une fois de plus, j'explore les sommités du
Jean-Pierre,
métal qui sont décédés.
En tant que nécrophile, n'écoute que des disques où les chanteurs, où les musiciens sont morts. Sepultura, ils sont morts artistiquement. Voilà. Là, c'est une mort physique.
Oui, et avec lesquels j'ai eu un rapport sexuel.
C'est surtout ça. Alors, tu l'as eu avec Midnight ou avec celui qui t'a dédicacé le disque et dont on reconnaît pas la signature?
Je sais plus. En fait, ils étaient tous là.
On t'avait bu, tout ça.
Voilà. Et aussi, et d'un coup, on s'est réveillé le matin et voilà. Ça s'était fait.
Donc, Crimson Glory, Transcendance.
L'album, c'est Transcendance, leur album le plus connu. Ils ont sorti un autre album après, Strange and Beautiful, dans un registre assez différent, qui avait été complètement incompris à l'époque.
Et après, ils se sont reformés avec un autre chanteur.
Oui,
et
mais
ils ont sorti
travaillent actuellement, visiblement, puisqu'ils ont fait une tournée de reformation là, il y a quelques mois. Là, donc, le morceau s'appelle Mask of the Red Death, et les personnes qui aiment pas le métal dans le registre lyrique aigu, ça va être compliqué.
Ça dure 4 minutes, mais c'est beau quand même.
Please.
1988, Crimson Glory, l'album Transcendance. Et il fallait assumer à l'époque, hein, être fan de Crimson Glory parce que...
Il fallait se maquiller.
Oui, oui, parce que c'est ça aussi qu'on a oublié de dire, c'est que sur scène, ils portaient des masques dorés, des belles chevelures permanentées, bouclées, enfin...
Oui, c'est les années 80 un peu.
Oui, enfin, on n'était pas forcément obligé de... Mais musicalement, moi, je trouvais ça très très bien.
Alors, on reste... Oui.
C'est tout.
On reste dans l'éclectisme, donc on va revenir à des trucs tout à l'heure un peu plus violentes, mais pour l'instant, je vais vous proposer un groupe qui s'appelle Maximum Dit Hormone.
Et si on dit non? Alors, si tu proposes.
Bah ouais, mais en fait, je suis une espèce de.
Je vous impose.
Je suis un dictateur, un Noise Pollution.
Voilà.
Donc, le disque, enfin, le groupe s'appelle Maximum Dit Hormone. J'avoue qu'il y a une semaine, je ne connaissais pas.
C'est bien.
Et puis, au Hellfest, à un moment, je vais pour m'acheter un truc à boire et j'entends une espèce de furieuse hurler dans un micro. Je me dis, tiens, ça a l'air marrant ce truc, je vais voir. Et c'était la batteuse de Maximum Dit Hormone qui gueulait en japonais, parce que c'est un groupe japonais. Elle n'arrivait plus à parler anglais, elle ne trouvait pas les mots, alors elle parlait au public en japonais, personne ne comprenait rien. Il y a espèce de truc tout bizarre qui se passait. Alors leur musique, c'est indéfinissable, hein, c'est une sorte de fusion entre tous les styles de musique qui existent du monde.
La pochette est bien, ceci.
Ouais, du death metal au funk.
D'accord.
Donc on ratisse large, en passant par la Japanese pop, enfin la pop japonaise.
J-pop, on dit.
La J-pop.
Dans le business.
Alors, donc on dit la J-pop. Ouais. Donc voilà, je vous propose, alors ça part dans tous les sens, tous les morceaux sont vraiment bien, c'est super énergique. L'album, je vais essayer de ça s'appelle Buikikaezu. Alors j'ai la traduction parce qu'en fait normalement c'est écrit en japonais. Et le morceau que je vous propose s'appelle Chouchou Lovely Muni Muni Mura Mura Purin Purin Boron, enfin etc etc.
Le mieux c'est d'écouter le générique de Dragon Ball.
Voilà, mais c'est d'un autre niveau que Dragon Ball, vous allez voir. Oh! Voilà donc un groupe japonais complètement débridé, la fusion la plus totale entre tous.
Quel
les styles.
Quel jeu de mots exceptionnel.
Débridé, t'as vu, non mais...
Japonais débridé, il est fort. Il a pas fait exprès.
Non, du tout. Mais c'est inconscient, c'est à force de faire, on y arrive. L'album s'appelle Bukikaezu, sorti en 2007, mais pas chez nous, je crois. C'est pas la peine de le chercher.
Ça va être compliqué, je pense.
Voilà. Donc le groupe s'appelle Maximum des Hormones, et sur scène, c'était ce qu'on a écouté, puissance 10. Enfin, ça partait vraiment dans tous les sens, et ça faisait plaisir de voir des gens qui s'éclataient autant.
D'accord. Alors, on va rester dans la musique un peu plus musclée que le début de l'émission avec la vérité brutale.
Ah, la brutale truth.
Un des groupes cultes de la scène de grindcore death metal des années 90. Hein. Le groupe existe encore d'ailleurs puisque ils se sont reformés il y a pas très très longtemps. Là, c'est un extrait de leur premier album qui s'appelle Extreme Conditions Demands Extreme Response. Voilà, les conditions extrêmes demandent des réponses extrêmes. Brutal Truth, donc du grain, le grain de corps. Laurent, peut-être nous décrire ce que c'est, parce qu'il adore.
Ah, je trouve ça totalement insupportable du début jusqu'à la fin.
Non, c'est de la musique très très rapide, très très brutale. Néanmoins relativement technique et généralement assez ancré socialement, c'est le cas pour Brutal Truth.
Ouais, au moins moi je déteste Brutal Truth, j'écoute pas ce genre de truc, mais on peut pas le reprocher d'être du mauvais côté politique.
Oui, parce que les textes sont très très intéressants, malheureusement difficiles à comprendre quand on écoute les morceaux. Heureusement qu'ils sont présents dans les livrets. Et là le morceau s'appelle Birth of Ignorance. Éloignez un petit peu les enfants parce qu'ils pourraient avoir les oreilles qui saignent pendant le morceau. 1992, donc c'était il y a à peu près 20 ans, Brutal Truth, Extreme Conditions Demands Extreme Responses. En plus, la prod est plutôt intéressante pour l'époque, et notamment pour du grind, parce que c'était souvent complexe. Donc si vous voulez 2-3 bons albums de grindcore, histoire d'avoir une disco metal complète, Brutal Truth doit figurer dans vos choix.
Avec Napalm Death.
Oui, et le premier album de Terrorizer aussi.
D'accord, ce sera le morceau le plus violent de l'émission Noise Pollution.
Ouais, il en faut un.
Alors, on poursuit tout de suite.
Faut quand même dire, tu t'es évanoui pendant le morceau, on peut le dire, ça.
Bah ouais, heureusement que Jean-Pierre maîtrise le bouche à bouche.
Complètement.
Parce que sans ça, je serais pas là pour vous présenter le prochain disque. Donc, c'est une nouveauté, c'est le nouveau Symphony X. Tu te rappelles de Symphony X?
Oui. Oui, je me suis arrêté, je crois, au troisième album.
C'était pas mal, métal progressif.
Avec un chanteur qui, je crois, travaillait dans un spectacle, genre Walt Disney, dans un parc d'attractions, il faisait des cascades médiévales.
Russell Allen? Oui. Ouais. Bon, bah maintenant, je pense qu'il se consacre entièrement à Symphony X.
Et je me rappelle que le guitariste était un peu corpulent.
Alors, il l'est toujours, mais il a pas plus grossi. Et que,
il était très inspiré par Yngwie Malmsteen.
Ah, mais c'est fini, ça, par contre.
Ah, mince.
Il a laissé tomber, alors, c'est toujours un tueur à la guitare, il n'y a pas de souci. Par contre, il a beaucoup évolué au niveau de son jeu de guitare, il a laissé tomber les solos à la néoclassique ou à la Yngwie Malmsteen, et il a beaucoup développé son jeu en rythmique, ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas depuis l'avant-dernier album qui s'appelait Paradise Lost et le nouveau là qui s'appelle Iconoclast, on est dans un métal progressif qui est beaucoup plus heavy qu'avant, voire tendance trashisante. Et Russell Allen, c'est un des meilleurs chanteurs de métal, hein, parce qu'il est capable d'avoir une voix très agressive comme une voix très mélodique.
Mais c'était pas lui sur les premiers albums,
sur
je crois.
Sur le premier, c'était pas lui, mais sur ouais, tous les autres, c'était.
D'accord, parce que ça doit être lui, alors qu'il doit être animateur de parade.
Non, mais c'était il y a 2000 ans, Jean-Pierre, tu te rappelles.
Il a peut-être quitté son métier.
Donc, c'est le nouvel album. J'ai la version double, parce que je crois qu'il existe une version simple, donc il doit y avoir moins de morceaux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez aimé l'album d'avant, Paradise Lost, vous aimerez celui-là. C'est dans la digne continuité, donc heavy, tendance progressive avec encore un peu de clavier, etc., beaucoup moins qu'avant, et ultra heavy. Je vous propose The End of Innocence, parce que oui, c'est fini l'innocence, Jean-Pierre.
Il y a longtemps, mais toi, Laurent, ça date de quelques jours, puisque ouais, effectivement, une partie de ton corps a été explorée pour la première fois par des bikers, mais voilà, pour les autres, c'est fini.
voilà, amateur de métal progressif, c'est la sortie du mois, Symphony X avec l'album Iconoclast. Donc il faut aimer plein de solos de guitare, des solos de clavier un petit peu, des morceaux complexes. Alors j'ai mis un morceau un peu court hein, qui fait moins de 5 minutes, The End of Innocence, mais il y a plein de morceaux qui sont plutôt 6, 7, 8 jusqu'à 10 minutes hein, puisque c'est une musique qui est un peu plus complexe. Donc voilà, le nouveau Symphony X.
Voilà, on en parle depuis le début de l'émission, donc je pense qu'il serait temps de crever l'abcès et de raconter ce qui t'est arrivé.
Qu'est-ce que tu vas
pendant le set de Rob Halford?
Non, c'était pas. Eh ben, tu vois, les légendes urbaines naissent comme ça. C'était pendant le set de Ozzy Osbourne.
Que ça t'est arrivé? Ah bah oui, ouais. Alors ils sont arrivés trop tard. Les bikers qui avaient amené, parce que le surnom de Rob Halford c'est quand même Metal God. Hein.
Et, mais et God, pas dans le sens God Michel.
Eh ben si, justement, les bikers ont confondu. Voilà, et ils en avaient un. Et du coup, malheureusement, frustrés d'arriver en retard au voilà, ils n'ont pas vu, ils s'en sont servis sur. Voilà.
N'empêche que Rob Halford, pour venir, qui a chanté plutôt pas mal dans le concert au Hellfest, même s'il bouge plus beaucoup parce qu'il est un peu papy, oui. Il a eu du mal à assumer son homosexualité et à la faire accepter par d'autres, parce que le milieu métal est quand même
oui.
assez homophobe et ça a été difficile à faire connaître.
Dans Judas Priest, tout le monde, c'était un secret un peu de polichinelle, quoi. Enfin, on s'en était un peu tous rendu compte quand même que ce.
Bah, avec ses tenues, tu veux dire?
Voilà.
C'est vrai qu'il avait un look.
Pourtant, non, ça filtrait pas. Et puis, il a fait son coming out il y a pas très longtemps. Mais c'est plutôt bien qu'il ait réussi à le faire.
Oui. Et que ça, le public l'a accepté finalement.
Voilà. Et même Brutal Truth, d'ailleurs, a un morceau qui s'appelle
Anti-homophobe.
Voilà. Pour vous dire, tu vois, on fait des liens comme ça. Donc, on revient maintenant à la programmation musicale.
Un papy.
Gérontophilie quand tu nous tiens. Ozzy Osbourne, donc c'est notre père à tous, hein, on va le dire comme ça.
Hein, on peut même quasiment dire que c'est le père du heavy metal.
Voilà, c'est pour dans ce sens-là que c'est notre père à tous.
Parce qu'après, je sais pas ce qu'a fait ta maman, mais
si elle avait connu Ozzy Osbourne, je pense que elle me l'aurait dit, elle m'aurait pas arraché les posters comme elle l'a fait
quand t'étais ado,
jeunesse, oui, les brûlés et tout ça. Donc Ozzy Osbourne, là on est en 1982, il vient de quitter Black Sabbath. Il vient de quitter le Black Sabbath et c'est l'épisode qu'on a appelé à l'époque la guerre des lives, puisque nos amis de Black Sabbath sortent un live qui s'appelle Live Evil qui est tout pourri et lui sort son Speak of the Devil.
Il est pas tout pourri, Live Evil.
Oh, il est quand même bien pourri. Par rapport à Speak of the Devil, il y a pas photo avec que des morceaux de Black Sabbath. Et donc il a remporté cette guerre. C'était il y a 30 ans. Depuis, il fait encore des concerts.
Et du coup, il a gagné la guerre, si on fait le bilan de la carrière de Black Sabbath sans Ozzy Osbourne et de la carrière d'Ozzy Osbourne sans Black Sabbath. Il a gagné, même si Black Sabbath, il y a eu un sursaut avec l'arrivée de Dio un peu plus tard.
Oui, il est mort d'ailleurs.
Ronnie aussi, oui. On peut dire que ouais, Ozzy Osbourne a quand même artistiquement bien plus marché.
Il y a eu quelques fautes de goût quand même à Ozzy Osbourne, notamment
son émission de télé-réalité est pourrie là.
Scandale quoi.
C'est la honte.
Puis même musicalement, il y a quand même quelques albums un peu en tout. Enfin là, nous sommes à New York au Ritz, soit le 26, soit le 27 septembre 1982. Moi, j'ai 9 ans. J'ai donné un élément sur
moi,
mon
13
âge.
Mois.
Attention. Voilà. Et nous nous apprêtons à écouter le morceau qui s'appelle The Wizard. Ozzy Osbourne, The Madman.
Ouais, et donc c'est sur le premier live.
Exactement.
Qui l'a sorti après cette barrée de Black Sabbath.
The Devil, et puis Laurent l'a vu la semaine dernière.
Et c'était plutôt bien, parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans les années 90 à Lyon, et la tournée était quand même pas terrible à Lyon.
C'était déjà à l'époque une tournée d'adieu, je crois.
Je sais pas. Mais d'ailleurs, c'est pas une tournée d'adieu aussi. Hein, donc,
je le soupçonne d'être immortel.
Ça. Vu ce qu'il a pris, ce qu'il a ingurgité comme substance illicite, et pour être encore là, oui, je pense qu'il y a un truc qui le protège.
Oui.
Et ce qu'on peut noter,
c'est diable.
C'est peut-être ça. En tout cas, il a fait une performance plutôt sympathique, même s'il s'est vraiment un papy. Il bouge d'un mètre à droite du micro, un mètre à gauche du micro, pas plus. Mais par contre, c'était très énergique. Puis il a un nouveau guitariste, la Gus G, qui est vraiment très impressionnant. Un peu poseur, mais voilà, et c'était vraiment très très bien.
Il faut compenser
le papy.
Le côté très statique de.
Ouais, ah oui, là, t'es obligé. Donc, je vais annoncer quelques concerts avant d'écouter un dernier morceau.
Superbe.
Donc, nous sommes le 24. Tu sais?
Oui.
Et ben demain, il y a Protest de Hero, qui joue au Warm Audio, 29 rue Wilson à Dessine à 19h. Il y a un arrêt du tram T3. Alors je vais faire dans le désordre, hein, parce que j'ai pas tout noté dans le bon sens, mais le 30 juin, ah bah si, Jean-Pierre, il faudrait que. Là, Jean-Pierre part en vacances, donc il va peut-être pas pouvoir y aller.
Ben non, mais je suis là le 30 juin. Ah. Je suis encore là.
Bon, parce qu'il y a Decide.
Ah, oui. Non, mais je. Non. Ma mère m'interdit d'aller au concert de Decide. Elle m'a dit.
Et ben pour une fois. Je suis presque d'accord avec ta mère, tu vois. Donc Decide avec Belphégor, Hour of Penance et The Amenta, si je me trompe pas, c'est au Ninkasi, ça sera le 30 juin. Après, faut aller voir en juillet. Le 5 juillet, il y a ZZ Top à la Halle Tony Garnier. Le 18 juillet, ça vient d'être ajouté, il y a Sepultura qui joue au Ninkasi KO. Donc vous aurez l'occasion d'écouter le nouveau disque, en partie. Enfin, je pense qu'il joue beaucoup de classiques aussi. J'ai pas tout dit sur le mois de juillet. Il y a Deep Purple le 27 juillet à Vienne avec l'Orchestre Philharmonique de Francfort.
Yar.
Voilà. Et puis après, on passe à la rentrée. Alors à la rentrée, il y a Payne, Alice Cooper, Scorpion, Ed Guy, Doro, Samael.
Tout ça le même soir.
Non, pas tout ça le même soir. KMFDM pour ceux qui aiment plutôt la musique indus et Ice Earth. J'ai pas donné toutes les dates parce que ça, je vous laisserai chercher. C'est tout. Octobre, novembre.
Il y a le temps. Ça a le temps d'être annulé, reporté, décalé.
Non, tout de suite. Toi, tu vois le mal par tout.
Non. Je suis précautionneux. Moi, je te rappelle que j'ai quand même réalisé parfois des déplacements très loin pour aller voir des concerts qui avaient été annulés.
Hein. C'est vrai, t'as fait ça, toi?
Oui. Allez. Je suis allé voir Voivode une fois en Suisse et le concert avait été annulé.
Donc, t'as jamais vu Voivode?
Non. Ah. Non. Par contre, on a fait du kilomètre. Puis au retour, on a arrêté par des douaniers. Enfin, c'était la grande classe. Une bonne soirée. Comment on les aime.
Bon, et ben moi, je suis allé au Hellfest et j'ai pas eu de problème de douaniers.
Par contre,
ça reste en
voilà,
France.
Voilà, tu as eu des problèmes d'ébriété, divers et variés, de vomissements, les acouphènes, tout ça.
Ouais, c'est un peu ça.
Trois nuits sans sommeil. C'est un peu ça, oui.
C'est un peu quatre.
Et encore, je passe sous silence ce qui est
du domaine du privé.
Exactement.
Ce qu'on peut dire quand même sur le Hellfest, parce qu'on a beau dire que les cathos s'étaient encore un peu opposés au festival.
Oui.
D'ailleurs, on a trouvé à l'entrée une vingtaine de petites médailles en aluminium avec la Vierge Marie.
Ah.
Donc ils avaient un peu béni le site hein, pour enlever le diable qui arrivait par dizaines de milliers de personnes.
Oui, c'est pour ça qu'il y a certains musiciens de black metal qui ont pris feu au passage.
Voilà. Ben non, ça c'est une légende parce que finalement, même quand ils jettent de l'eau bénite, on doit pas être assez proche du diable parce qu'on prend pas feu.
Ah.
Et ce qu'on peut noter, c'est que les métallos font du cœur quand même, puisqu'ils ont rendu un hommage assez vibrant à Patrick Roy,
oui. Le
député qui est mort du cancer et qui défendait la musique métal à l'Assemblée. C'était bien le seul, hein, quand même, faut le dire.
Oui.
Un hommage avec Forces About to Work d'ACDC diffusé pendant un énorme feu d'artifice. Donc voilà, ce sont pas des brutes sanguinaires, comme le laissent entendre certains cathos intégristes.
Oui, les métalleux ont un cœur de métal, mais un cœur tout de même.
Voilà, un metal art. Oh. On s'écoute pour terminer cette émission le dernier album de Saxon qui est sorti il y a une quinzaine de jours. Ça s'appelle Call to Arms. Alors pas de surprise, hein, Saxon fait du Saxon.
Old Wave of British Heavy Metal, on va dire maintenant.
Voilà, bah ouais, c'est ça. Hein. Et ça révolutionne rien du tout. Mais si on aime Saxon, notamment la voix du chanteur, qui est moi je trouve assez sympathique.
La pochette aussi est bien.
Ouais, avec des gros. Il y a un concours hein, pour faire des poser avec et essayer d'avoir les mêmes moustaches que le monsieur sur la pochette.
J'ai essayé
pendant de nombreuses années, mais
il était surnommé dans le milieu de French Moustache.
C'est vrai ça, par le guitariste de Dream Theater.
Voilà.
Surviving Against the Odds, c'est le titre qu'on s'écoute et ce sera le dernier morceau de l'émission. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, Noise Pollution sur Radio Canu a une fin aussi.
Exactement, et puis moi je...
Tu pars en vacances, ça y est ?
Voilà, je vous annonce mon départ en vacances, donc je ne serai pas présent pour les trois prochaines émissions, je crois.
Donc tu pars aux Philippines faire du tourisme sexuel ?
Complètement, avec mes enfants.
C'est à part un peu, c'est spécial.
On partage, chacun vient avec les siens et on échange.
D'accord.
C'est horrible ce qu'on dit, Laurent. Si des gens nous prennent au sérieux, c'est une catastrophe.
Non, mais je pense que tout le monde comprend que c'est pas du premier degré, ou alors.
J'espère bien, parce que oui, il faut quand même reconnaître que Laurent ne s'est pas fait.
Il m'est rien arrivé au Hellfest.
Si, des choses plutôt agréables, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Quoi, voilà.
Non, c'est un fiscal très bon enfant.
Oui. Yeah. Je peux quand même annoncer à ta compagne que tu as eu un rapport avec.
Avec qui ?
Une bikeuse allemande.
Ah ouais, non, mais ça compte pas, une bikeuse. C'est un être humain, une bikeuse.
Oh, ouais, bravo. Voilà, donc il y en a une qui nous attend là avec une matraque.
Alors, amis bikers et bikeuses, amis métallos, amis tout court, on se retrouve la semaine prochaine sans Jean-Pierre pour une émission plus calme.
Voilà,
et puis dans
moins de bêtises.
D'ici trois semaines, Jean-Pierre revient.
Voilà, mais vous pouvez partir en vacances aussi, hein, je veux dire.
Ouais, vous avez le droit. Ouais, voilà. Et tout de suite, l'émission de punk. Parce que c'est assez rigolé, assez de solo de guitare maintenant.
Voilà, bonne semaine.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public ? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale.